Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast d'Idol News Network, l'émission qui vous informe avec passion et vous fait découvrir le monde merveilleux des idols, mais pas que. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 34. J'ai aujourd'hui avec moi Anthony, comment ça va ?
Salut à tous, écoute, ça va plutôt bien. Merci.
Nous avons ensuite Ashki. Comment ça va, Ashki ?
Ça va.
Nous avons notre ami Nantais, Eric. Comment ça va ?
Salut à tous, ça va très bien, merci.
Nous avons ensuite Franck. Comment ça va ?
Bonjour à tous, ça va très bien, merci.
Et enfin, nous avons avec nous Laurent. Comment ça va ?
Très bien, comme d'habitude.
T'es en vacances là, non, je présume ?
Ouais.
Voilà, comme moi, c'est ça fait du bien de temps en temps.
Bande de planqués.
Bande de planqués tout de suite. Alors aujourd'hui, c'est la première véritable émission de la saison 2, enfin en tout cas dans sa nouvelle forme. Alors pour vous rappeler un peu donc ce qu'on avait décidé, on a pour commencer des coups de cœur du moment, ensuite on fera la présentation d'un groupe, on aura donc cette fois-ci, mais peut-être pas tout le temps comme d'habitude, un débat, mais en tout cas aujourd'hui il y en a un. À la suite de ce débat, il y aura la présentation un peu plus rapide cette fois-ci d'un groupe découverte, donc un groupe qu'on a découvert récemment et qui donc nous a intrigué, qu'on aimerait donc vous faire découvrir. Ensuite, les commentaires du J-Top uniquement, puisqu'il n'y a pas de Toporicon encore pour l'instant. Et on termine bien entendu par les recommandations, mais on va commencer tout de suite par les news. Et pour commencer donc les news, je vais laisser la parole à Ashki qui nous parle de jeux vidéo, bizarrement.
Donc c'est le jeu League of Legends qui mondialement connu, on va dire, qui n'était pas encore arrivé au Japon. Enfin, du moins, il était joué au Japon, mais il n'avait pas de version japonaise. Et donc là, la version japonaise vient d'être annoncée. Et donc le Voidcast fait plutôt envie, puisqu'on retrouve entre autres Yuki Aoi de Madoka, Tani Ikue, qui est la doubleuse de Pikachu et de Tony Chopper. Mais surtout, ce qui nous intéresse et le rapport avec le podcast, c'est Uesaka Sumire, qui double Anastasia dans Cinderella Girl. Et qui fera la voix de Jinx. Et donc, faut savoir que Uesaka Sumire, si vous avez suivi le podcast, dans les recommandations, on parlait de Shimoseka. C'est elle qui fait aussi le générique de Shimoseka. Voilà.
Très bien. Ensuite, Anthony nous parle d'un micro-changement, on va dire, chez les Kebi.
Ouh là là, alors attention. Là, tu te lances dans un débat si tu appelles ça un micro-changement. Mais c'est effectivement Matsui Jurina qui abandonne sa double position, puisqu'elle était en même temps chez les Kebi48 et chez les SK48. Elle abandonne donc cette double position pour se consacrer uniquement à son groupe d'origine. Et ce n'est pas du tout un micro-changement pour les fans.
J'ai le droit de le penser, moi, non ?
Oui, tout à fait.
Sur le principe, ça changera pas grand-chose.
Peut-être qu'elle sera plus sur les singles, du coup, je sais pas. Enfin, c'est à voir.
On la verra moins à Tokyo, quoi.
Elle sera encore sur les singles, puisqu'elle fait partie des Senbatsu.
En tout cas, là, avec déjà le départ de Matsui Reina il y a 2 mois, ça fait quand même un gros bouleversement au niveau des SK48.
Est-ce que ça va booster les ventes des SKI ?
Je pense pas qu'une personne puisse influer autant que ça sur les ventes. Le groupe a ses ventes habituelles, il dépassera pas plus.
Alors, si vous le voulez bien, on passe à la news suivante. Donc, c'est Eric qui nous parle d'un changement de politique sur YouTube.
Voilà. Alors, dû au déploiement de la nouvelle version payante de YouTube qui s'appelle RedTube, qui s'appelle YouTube Red, le déploiement aux États-Unis de YouTube Red fait que les vidéos des labels japonais sont bloquées là-bas comme on a parfois chez nous, this video is not available in your country, et ce genre de choses.
Notamment la chaîne des Nogizaka qui est que japonaise.
Ouais, parce que c'est Sony.
Il y a pas mal de petits labels, même je repense à Especia, puisque c'est quelque chose que je connais pas mal. Victor a parfois des deals aussi avec Yahoo, où il diffuse les vidéos que sur le player de Yahoo. Alors s'il y a quelqu'un, il y en a un de vous qui connaît le nom là, vous savez, il y a un site spécial Yahoo, ils ont une sorte de tube au Japon, mais j'oubliais le nom. Et pareil, où c'est bloqué chez nous. Donc c'est pas une très bonne nouvelle en fait, pour les fans de musique japonais américains. Mais bon, vu que c'est pas chez nous, on s'en fout, hein.
Pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, ouais.
Et en fait, apparemment, c'est d'après ce que j'ai lu dans l'article, d'après ce qu'on a compris, c'est du côté japonais qu'en fait, ils ont pas fait les démarches pour s'abonner au service.
Bah, le truc, c'est que derrière, les Japonais, je pense que eux, ils ont pas une recherche de monétisation du truc. Et comme il y a de la monétisation derrière, que YouTube va se faire de la thune sur l'endo, je pense que ça leur plaît pas trop, quoi.
Apparemment, même qu'on paye ou qu'on paye pas, le service est bloqué.
Ah oui, bah oui, donc c'est ça qui est grave, en fait, là.
Ah oui, en plus, en payant YouTube Red, ouais, tu n'auras pas accès aux chaînes japonaises. Oui.
Si jamais ça arrive chez nous, on se barre au Japon.
Alors, autre news, j'allais dire presque chez les Kebi, mais en fait non, puisqu'elle n'est plus membre du groupe depuis un certain temps déjà. Donc, mais peut-être vous vous rappelez d'elle. Donc, Akimoto Sayaka joue dans un film. Donc, le film s'appelle Biku. Il sort au Japon le 14 novembre prochain. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que justement, elle va chanter la chanson thème du film qui s'intitule Sengetsu Hikarito Yamino Sobade. Voilà, donc alors apparemment, ça faisait un truc comme un peu plus de 6 ans du coup qu'elle n'avait pas chanté une chanson en solo. Donc après, est-ce qu'il y aura un single derrière pour l'instant? Il me semble que c'est pas annoncé. Je présume que ça, sûrement ça arrivera. Donc pour ses fans, enfin ses anciens fans, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc si vous aimiez bien la demoiselle à l'époque, n'hésitez pas à jeter un œil. Surtout qu'il y a déjà un extrait disponible justement du dit titre sur YouTube. Alors Ashki nous parle des Dempagomi pour changer ensuite.
La news date un peu entre guillemets, mais les élections sont ce soir, donc ce soir se tient les MTV EMA à Milan, et les Dempagumi ont été choisies en tant que représentantes japonaises, et donc l'étape de maintenant, c'est pour savoir si elles vont représenter l'Asie, voilà.
Ouais, mais quand ça va sortir le podcast, on aura déjà la réponse.
Bon, c'est pas grave. Alors, bon, j'allais dire un peu plus triston, c'est pas forcément triste, c'est juste un changement. Laurent nous parle d'un changement important quand même chez les Stereo Japan.
Voilà, donc le groupe Stereo Saga change de nom pour Edge Dub Monkeys. Il quitte aussi le label Bermuda Entertainment Japan, donc Stereo Japan ne compte plus qu'un seul groupe, Stereo Tokyo. Donc bah, on va essayer de surveiller quand même un peu tout ça, et puis on verra bien l'évolution pour donc Edge Dub Monkeys. Voilà.
Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que Stereo Japan va rester Stereo Japan ou ça va devenir Stereo Tokyo ? Le groupe qui reste.
Potentiellement, ils peuvent relancer un autre groupe autre part, je sais pas. Hein. Ils vont peut-être lancer pour faire plaisir à Laurent un Stereo Fukuoka et là Laurent va devenir fan.
Mais non, ils vont faire Stereo Sendai.
Voilà, quand il y aura du nouveau, non, on parlera, bien entendu, dans une présentation future, évidemment, pourquoi pas. Alors Anthony, tu nous parles de Takamina.
Oui, l'annonce est tombée là ce matin au moment où on enregistre. Elle a été présentée comme la center du prochain single des AKB48, donc le 42e, qui sera son dernier single, hein, puisque je le rappelle, elle va quitter le groupe à la fin de l'année. Elle avait annoncé l'année dernière. Et le CD sort le jour de son Sotsugyo, si je dis pas de bêtises, c'est le 9 décembre prochain, donc le lendemain des 10 ans du groupe. Et dans le single, il y aura aussi une chanson de Sotsugyo. C'est un peu la mode depuis le départ de Maeda, chacune des grosses membres... Hein, pas les petites là qui quittent le groupe. Les grosses membres ont toutes leurs chansons de Sotsugyo. Donc elle y sera aussi. Et il me semble, alors j'ai pas eu le temps de trop vérifier depuis tout à l'heure, mais il me semble bien que c'est la première fois qu'elle est center unique sur un single des AKB. Il y a 10 ans de groupe, donc c'est plutôt pas mal. Ses fans doivent être contents.
Il y avait une vidéo où elle était center toute seule, il me semble.
Elle a eu des solos dans la Team Surprise, elle a eu son single solo aussi, mais après, donc, un single vraiment pur AKB, je m'en souviens pas.
Non, mais je déconne, c'est bien elle qui s'est rasé les cheveux, non?
Non, c'est l'autre Minami.
Non, c'est l'autre Minami, ah merde! Putain!
Takahashi Minami, c'est la manager du 48, hein, le petit bonhomme, là.
Ouais, c'est exactement ça, j'allais dire, celle qui a une tête de Yakuza, tiens. Mais elle est super, elle est plutôt cool, ceci dit, enfin, elle a l'air carrément sympa.
Donc j'ai proposé une petite news comme ça pour le lol un peu. Alors ça fera peut-être réagir certains de nos auditeurs ou auditrices particulièrement. Alors il s'agit en fait d'une news un peu particulière, c'est assez rare. Enfin, j'ai pas d'exemples comme ça qui me viennent en tête d'événements de ce type dans le passé. Donc en fait chez le Hello Project, donc chez les Juice. Alors Uemura Akali donc a eu droit à un photobook. Alors le photobook normalement devait sortir là et il a été reporté de 5 jours ou quelque chose comme ça, donc par Wannibooks. Alors officiellement pour un défaut, mais alors le défaut on ne sait pas lequel, ce que c'est. Et voilà, donc le le petit entre guillemets troll voilà qui a commencé à émerger entre guillemets sur le potentiel défaut, ça serait que les premières photos preview qui ont été données du photobook seraient trop sexy et que peut-être du coup bah ils allaient un peu édulcorer finalement certaines photos pour la version finale du photobook. On ne sait pas. Voilà, donc si vous n'avez pas vu déjà à quoi ressemblent les photos en question, ben on vous invite à chercher sur internet. Donc sur, par exemple sur le forum de Halo Online, vous avez moyen de trouver un.
C'est pas la première fois que ça arrive, hein. Enfin, dans le HP oui, mais c'était déjà arrivé, il me semble, avec Tomochin.
Tomochin?
Avec l'histoire de la cover avec le gamin qui lui sert de soutien-gorge, un truc comme ça.
Ah, c'est Chiyu.
Oui, mais ça a pas été refait.
Non, ils ont supprimé le photobook.
Je sais pas combien ça va leur coûter quand même l'histoire, parce que si on se dit ils refont pour un défaut, ça veut dire qu'en gros ils avaient déjà imprimé des trucs, j'imagine quand même à 5 jours de la sortie du truc.
Ils vont juste mettre un blister pour pas que tu puisses le feuilleter avant de l'acheter. Ça va leur porter que du bon, je pense, ce genre de petit buzz.
Ouais, je pense aussi, ouais.
C'est peut-être une nouvelle technique marketing à la japonaise, comme vu qu'ils sont très forts en marketing, c'est peut-être une nouvelle combine, faire croire que on va corriger un défaut, ouais, non, c'est, en fait, c'était trop, hop, et en fait, derrière, on change rien, et c'était juste pour faire du buzz, quoi.
Il y a des photobooks chez le HP, je repense à celui de Kudo Haruka, qui s'appelait Do, D-O, hein, et qui était quand même, je sais pas, enfin moi je le trouvais beaucoup plus dérangeant entre guillemets parce que elle avait 13 ans je crois à l'époque, peut-être même 12, et bah, évidemment elle a moins de forme, mais je sais pas, la voir tu sais en maillot de bain ou en tenue de schoolgirls et tout, je trouvais ça un peu plus salace entre guillemets quoi, je sais pas, moi ça me choque pas ces derniers photobooks quoi.
Il y a bien pire de façon tout à fait illégale au Japon, mais bon on va pas rentrer dans ce débat.
Chez l'HP c'est toujours soft hein, comparé aux autres.
Voilà, c'est au HP là, ça reste malgré tout ça. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans ce débat. Alors, on va inaugurer une nouvelle rubrique entre guillemets. Enfin, c'est une sous-rubrique plutôt aux news. C'est une rubrique spéciale Sotsuyo. Et donc, vous allez découvrir tout de suite. On a prévu justement un petit jingle spécial pour l'occasion.
Alors donc deux annonces de Sotsugyo chez les 48. Donc déjà Godo Saki a annoncé le 14 octobre dernier lors de la stage de la Team Ketsu son futur départ des SKI. Et ensuite Kadowaki Kanako des NMB48 a annoncé ses départs le 22 octobre dernier durant le live anniversaire des 5 ans du groupe.
Ouais, donc seulement deux Sotsugyo cette semaine, c'est un peu soft.
Ils ont fait soft cette semaine, ouais.
Mais vu qu'on revient à une émission par quinzaine, bon, c'est un peu normal aussi.
Non, mais maintenant les plus grandes vagues de Sotsugyo vont arriver pour les fêtes de fin d'année.
Voilà, on présume que Laurent aura du matos pour nous lors des prochaines émissions bientôt. Bon voilà, on en a fini en fait avec les news. Voilà, je sais pas trop comment enchaîner là pour le coup. Voilà, donc jingle. Pour commencer les coups de cœur du moment, je vais laisser la parole à Eric. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Mon coup de cœur du moment, c'est un morceau que j'ai découvert hier, qui s'appelle Tsuchinoko Teiru Tomo, et c'est chanté par Otome Shinto. Alors je sais pas s'il y en a qui connaissent ce groupe.
Je connais.
Non, ouais.
Moi, je connaissais pas du tout. C'est un pote qui a linké ça hier. Et donc là, elles font un morceau sur le Tsuchinoko. Alors la production est géniale en plus. Enfin, j'en parle vite fait, hein, mais c'est vraiment une petite production Disney classique, oiseaux qui chantent et tout. Les lignes mélodiques sont parfaites. Et elle parle du Tsuchinoko. Alors c'est une sorte d'animal légendaire, hyper chelou, typé serpent, qui fait 80 cm de long. Et donc toute la chanson est basée là-dessus. Genre, est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et elle parle du Yeti, du Chupacabra, du monstre du Loch Ness. Enfin, t'as plein de conneries. C'est hyper drôle. Le clip est débile mais cool. Et voilà, gros conseil de regardure. Entre guillemets.
alors Ashki, qu'est-ce que tu nous proposes?
Alors moi, c'est une réédition d'un album, donc c'est Mosso Shoujo Infinity, version 2015, donc c'est le premier album des Mosso Calibration avec la nouvelle formation, sans Miyuna et avec Iori et Yumeko en plus, voilà, c'est un extrait de la version live.
Alors Laurent, qu'est-ce que tu nous proposes toi comme coup de cœur
Alors moi, mon coup de cœur du moment, c'est le dernier clip de la team Hachioko, donc qui s'intitule Janaïta, qui est en fait issu d'une collaboration avec Shimo et Tosubits, donc quelque chose. Enfin, le clip en lui-même est vraiment fun, comme de toute façon. Sont tous les clips de la team Hachioko. Franchement, il vaut le coup d'œil. Vraiment le coup d'être vu. Et il y a une chorégraphie bien fun en plus à reproduire. Donc vraiment, j'adore.
Puis il vaut le coup d'être écouté aussi. Alors Franck, toi qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine?
Le dernier single du groupe Iris, Bright Fantasy. Voilà, j'ai bien aimé la chanson, c'est fun, c'est de la pop classique, mais j'aime bien. Et on va s'écouter un petit extrait.
Alors bon, je vais le garder pour la fin parce que j'aime bien et il me l'a piqué. Donc je vais me lancer moi d'abord. Alors j'ai choisi cette semaine donc un extrait du troisième album des Yui Kaori, donc Bright Canary. Donc on va s'écouter tout de suite un petit extrait donc. Et comme je le disais, voilà, on va finir par mon petit péché mignon, mon petit coup de cœur permanent. Mais du coup, voilà, je le cède aujourd'hui à Anthony.
Un coup de cœur que je partage, parce que Sarin Sarin sort son 11e single le 4 novembre prochain, Alarme. Et c'est un groupe que j'apprécie de plus en plus depuis cette année, que j'ai découvert cette année, qu'au fur et à mesure des sorties, j'aime beaucoup. Et le prochain single, donc Alarme, ne déroge pas la règle, voilà. Donc le 4 novembre prochain, en 3 éditions, on s'écoute un petit extrait tout de suite.
Alors, donc, plein de coups de cœur très intéressants cette semaine, mais maintenant, on va pouvoir passer à la première présentation, la grosse présentation de cette émission, une présentation assurée par notre ami Ashki. Mais tout ça, c'est après le petit...
jingle.
C'est à moi. Yui Meltmore, prononcé Yurumerumo. En général, en japonais, il l'appelle Yurumerumo. C'est un groupe d'idoles formé en octobre 2012. Actuellement composé de 6 membres, le groupe est aussi connu sous le nom de Yurumerumo, comme je viens de le dire. Il y a un jeu de mots entre le nom du groupe, Yumelt, signifiant tu fondras en anglais, et le verbe Yurumeru, signifiant desserrer en français. Le groupe donc se forme en octobre 2012. Il a à l'origine un quatuor féminin, dont les membres originaux sont Yumikon, Kenshin, Ichi et Nonchan. Peu après, Momopi rejoint le groupe en janvier 2013. Ichi quittera le groupe un mois plus tard. Le groupe se produira pour la première fois en concert en mars suivant à Asagaya Loft à Tokyo. Le groupe sort son premier single Hello World EP sous le petit label You Wilt Record. Le groupe sort un premier mini-album New Escape Underground, qui est le premier disque du groupe qui est sorti à l'échelle nationale en septembre 2013 sous le même label. Nonchan quitte le groupe en septembre 2013 et 5 autres jeunes filles, Chiffon, Yunapi, Ano, Shibo et Yuizarasu, rejoignent le groupe en tant que nouvelles membres le même mois. Le groupe passe donc à 8 membres. De plus, Ano joue de la guitare et du clavier. Avec cette nouvelle formation, un mini-album intitulé Ako Meltmore est réalisé en collaboration avec le groupe rock Akoniwa, No Shitsunaigaku. Il est exceptionnellement publié sous le label Type Alet Record. Donc le premier album complet du groupe, Unforgettable Final Odyssey, raccourci en UFO, donc objet volant non identifié, sort en juillet 2014, exceptionnellement sous un autre label, le label Space Shower Music. La formation du groupe reste stable, le temps de 2 mini-albums studio, jusqu'à ce que Yuzarasu décide de quitter le groupe en août. Momopi change de nom, enfin de pseudonyme pour Monet en novembre 2014, et en même temps, donc Yunapi et Rina Hamu Ichigo, qui est une ancienne membre de BIS, sortent un single, Kira Meki Ra Rikaru, en décembre 2014, sous le nom de Na Pihamu, et donc on va s'écouter un extrait. Par la suite, Yumikon quitte le groupe en décembre en raison de problèmes de santé. Donc, elle avait déjà cessé ses activités depuis juin pour les mêmes motifs, mais son état ne s'étant pas amélioré, elle décide de quitter le groupe. Et dans la foulée, ils sortent le single Nemetai City versus Dokushoniki. Donc, on va s'écouter un extrait. Continue ses activités à 6 donc, et elle sort un nouveau single intitulé Amida Sumo le 25 mars 2015 sous le label Space Shower Music, et on va s'écouter un extrait. Thank you. pour l'anecdote, la chanson est arrangée par Asashi Hiroyuki, membre des Polyphix. Entre-temps, ils font une autre collaboration avec le groupe de Noise, Ijo Kaiden, qui a sorti entre autres une autre collaboration avec le BIS, pour BIS Kaiden. Et donc l'album s'intitule Katai Kukan Mayo Naka no Heavy Rock Party, en décembre 2014, et Watashi wo Noise ni Tsurete, en mars 2015. Peu après, en avril 2015, une des membres, Anno, participe à une campagne originale dans les quartiers de Tokyo pour promouvoir le concert final de la tournée du groupe. Donc, elle a fait différentes activités un peu what the fuck, entre autres, tir au canon à confetti, et chanter au célèbre carrefour de Shibuya, manger des crevettes assises à une table au milieu de la rue de Takeshita Harajuku, ou porter un panneau en criant des encouragements aux passants avec un mégaphone à la gare de Shinbashi. Donc, elle-même et Ringo Koishiro, donc du groupe Band of Janaimons, sont également nommés mannequins pour l'exposition Tokyo Heroine, qui a été publiée en avril 2015. Le mois suivant, en mai 2015, Thibaut met en pause ses activités afin de se consacrer à ses études. Le même mois, Monet est mise en repos pendant une semaine en raison de problèmes de santé. Et le groupe a annoncé en automne 2015 qu'elles allaient jouer dans un film réalisé par Kayoko Asuraka. Et en parallèle, donc Yunapi continue ses activités en parallèle du groupe en tant que DJ et artiste. Elle fait quelques expositions. Et voilà, c'était ma présentation.
Eh bien, merci pour cette présentation très détaillée.
Aussi détaillé que les présentations de Nobé. Hein.
Ah bah, on peut pas faire aussi bien qu'un professeur. Alors, qui connaît le groupe avant, bien sûr, la super présentation que vient de nous faire Ashki?
Je connaissais déjà deux noms et j'ai eu l'occasion, il y a quelques temps de ça, de voir justement les fameuses vidéos pour promouvoir le concert, notamment avec la bande qui s'est pesée pour manger juste en haut de Takeshita Dori. J'avais trouvé cette vidéo juste totalement what the fuck. Ça avait donné un bon coup de pub au groupe.
Ouais, exactement pareil que Laurent. Moi, j'avais vu ça aussi, là, comme tu dis, en début d'année. Moi, c'était celle avec la pluie. Elle mangeait les crevettes, je crois, sous la pluie, quelque chose comme ça. Elle avait une sorte de gros ciré et tout. Elle bouffait sous la pluie, c'était n'importe quoi. Et c'est vrai que ça avait pas mal buzzé, ces vidéos-là. Ouais. Très, très bon coup de promo. Ouais.
Moi, juste deux noms. J'ai dû voir passer 2-3 clips sur ma playlist YouTube, mais c'est tout.
Je ne connais pas du tout.
Est-ce que la présentation qu'on a fait à Ashki t'a donné envie d'éventuellement un peu connaître?
Non, pas du tout.
Non, mais le titre aussi avec Polyphix, il est super cool. C'est celui où t'as un clip complètement barré ou.
Non, mais déjà, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Quand c'est trop what the fuck, j'aime pas ça, donc.
Non, mais c'est dans la limite du raisonnable. Là, je crois que c'est genre une pénurie de shoyu au Japon, en fait. Si je raconte pas de bêtises, c'est ça. Il y a plus de sauce soja au Japon et il y a tout un truc qui s'ensuit. C'est assez rigolo, ouais. C'est carrément bien, même.
Alors, pour ma part, je connaissais un peu le groupe, parce que j'en avais fait une présentation rapide quand même sur notre site à l'occasion de leur sortie d'album donc en collaboration avec le groupe de rock Akoniwa no Shitsunagaku, donc en janvier 2014, donc ça date un peu quand même. Donc bien que j'avais apprécié certaines de leurs titres, c'est vrai que je suis pas forcément beaucoup, juste un peu comme ça de loin de temps en temps quand il y a des... Quand il y a des titres qui passent comme ça au niveau des sorties, moi j'aime bien. Après c'est pas non plus forcément le groupe pour lequel je vendrais père et mère pour les voir en live par exemple. Bien que je pense pas que ce soit très cher ou compliqué de les voir, mais c'est sympa, ça s'écoute bien. Moi j'aime bien.
Bah pour finir, moi je les ai découverts l'année dernière en fait. J'avais vu 2-3 clips, je crois que c'était le clip Nemutai City versus de Kusho Miki. J'avais acheté le CD, j'étais tombé sur des gens qui m'ont dit ah tu connais et tout, viens voir un event. Donc j'avais pas eu le temps d'y aller finalement. Et j'avais remarqué Yunapi surtout dans le groupe. Et l'été dernier, j'ai eu l'occasion de les voir. Et c'est un groupe en fait, je pense qu'il vaut mieux pas tomber dessus par hasard, que si on tombe dessus par hasard et qu'on connaît pas le groupe. Et qu'on se dit, ah tiens, c'est sympa, je vais me rapprocher. Je pense que ça risque de très mal se passer, parce que c'est un peu un groupe à la mouvance BIS, c'est-à-dire que le public est un peu foufou, et ça a tendance à pogoter pas mal, les filles sautent dans le public, c'est assez particulier. Si on n'est pas préparé, je pense qu'on le vivra très mal.
On a fini avec cette présentation. On va pouvoir maintenant passer à notre débat. Un débat un peu particulier, comme vous allez le voir. Donc on se retrouve tout de suite. Et pour mener ce débat, je vais laisser la parole à Anthony, puisque c'est lui qui en a eu l'idée. C'est lui qui nous a soumis cette idée, donc je vais laisser lui-même introduire le sujet et un peu nous diriger justement pendant ce débat.
Oui, alors ce débat est venu suite à la réflexion des deux précédents qu'on avait fait, qui étaient plus ou moins liés de certaines façons. Et dans le dernier, on avait une petite partie marketing, et je me suis dit pourquoi pas reprendre cette idée de marketing aux groupes qui, pour leur début major, ont dû accomplir certains défis, des stretch goals. Si ça vous parle pas, je vais vous donner 2-3 exemples qui vont vous faire comprendre de suite. À l'époque des Smile Age, au début, Tsunku avait proposé de réunir 10 000 photos de fans en vue de faire un gros panneau de photos avec un effet où chaque photo était un peu recolorisée pour permettre de voir les visages des membres. Et si ce défi était réalisé, elles pouvaient commencer leur début major. Plus tôt dans l'année, on avait aussi les Deep Girls, un groupe qui, pour voir son deuxième single sortir, devait vendre son premier suffisamment bien pour qu'il soit dans le top 10 Oricon. Et s'il était présent dans le top 10 Oricon de la première semaine de sortie, elles pouvaient du coup espérer avoir un deuxième single plus tard. Enfin voilà, je voulais qu'on revienne un peu sur cette idée de marketing et en même temps aussi de ce qu'on avait pu parler précédemment, du soutien des fans, dans une nouvelle thématique, avec de nouveaux exemples, et voir pourquoi il y a ce genre de mode entre guillemets. Enfin, parce que personnellement je le vois assez souvent, mais je sais pas trop d'où ça peut venir, donc on peut en parler tous ensemble et analyser donc du coup cet effet et ces défis, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils apportent, quelle est la place des fans derrière tout ça.
Alors je sais pas exactement quand ça remonte cette mode, mais dans le même style, je sais qu'à leur début, les Morning Musume devaient vendre 5000 exemplaires de Ainotane en 3 jours. Donc ça existait déjà en 97.
C'est très japonais ça.
J'ai jamais vu ça ailleurs.
On en avait parlé dans les suggestions. C'était au tout début de la série, donc c'était pas forcément très très bien. C'est un peu amélioré depuis, mais c'est l'animé Million Dolls. Justement, on voit bien ce côté, on voit bien ça en fait. Et il y a une scène c'est vers la toute fin de la série où donc l'idol dit à son fan, non mais t'as pas besoin de faire tout ça. Et lui lui répond, il dit non, je fais pas ça, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour toi parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc c'est en fait comme les mecs, ils ont pas forcément de grandes ambitions, ils peuvent pas accomplir un grand rêve. En fait leur rêve à eux, c'est d'aider à accomplir le rêve d'autres, et là en l'occurrence non, c'est les idoles. Moi je le vois comme ça surtout, et que c'est un truc quand même très japonais, ce type de sentiment.
Ouais, c'est vrai que c'est un phénomène assez particulier. Comme dit Laurent, je sais pas quand ça date de ce que je vois, du peu que je connais. C'est vrai que je mettrais bien aussi à cette période-là, finalement, c'est-à-dire la deuxième, si on peut dire, vague d'idol. Donc fin des années 90, quelque part par là. J'imagine que ça doit dater de cette période à peu près. J'ai pas souvenir, même si on transpose dans d'autres genres musicaux, je vois pas du tout dans d'autres pays s'il y a des modèles comme ça. Vraiment pas, en tout cas en France on en a pas. Hein.
Je me souviens aussi, c'était pour les Momoclo, elles avaient un défi à réaliser pour pouvoir passer Major qui était quand même assez violent, puisque c'était en rapport avec les poids des membres. Là c'est un autre style, taille en centimètres moins 100 multiplié par 0,8 je crois.
J'ai vu ça il y a pas longtemps pour les biches aussi, là, celles qui devaient perdre 5 kilos.
Junjun a encore eu une bonne idée de merde avec son Diet or Died.
On en parlait il y a pas si longtemps que ça, là, du groupe éphémère au show Alice Project, qui avait un concept basé sur le cours du yen pour la longueur de la jupe. Enfin,
Ouais, ouais, Magic Adokaki Japan.
Sérieux?
Ouais, ouais. D'ailleurs, pour leur premier live, le cours du yen s'était tellement bien planté qu'en gros, bah non, elles ont fait concert sans jupe.
Le truc tué dès le début, quoi. Enfin, bon. C'est... Ouais, non, je sais pas. C'est le Japon, c'est, une... enfin, c'est un peu une habitude, j'ai l'impression, au Japon, comme on dit, ouais, depuis quand même un certain nombre d'années, hein, c'est vraiment pas récent, de se lancer ce genre de défi-là. Alors, par contre, peut-être, alors, moi, j'ai pas vraiment ce regard-là par rapport à d'autres groupes. Est-ce que ça se fait vraiment pour d'autres groupes en dehors des idoles? Je présume que oui, même si j'ai pas d'exemple comme ça qui me vienne en tête.
Pour le visu, je crois, j'avais vu des trucs.
Quoi qu'il en soit, alors, même si là, bon, comme on l'a dit, il y a certains défis qui sont lancés qui sont peut-être, comme ça, au premier abord, un peu farfelus, la plupart des groupes, même si ça n'est pas dit, il doit y avoir simplement un défi sur le nombre de ventes pour justifier de continuer ou pas le groupe, ou de passer major ou pas major.
C'est ça. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis. C'est exactement ça, à mon avis. En fait, le truc, c'est que, sans parler de défis, plutôt des objectifs. Évidemment, il y a des objectifs, surtout chez les gros labels dans d'autres genres musicaux. Ce qui est vraiment unique dans le concept, dans l'univers idol, c'est qu'elles en jouent carrément, en fait, quoi. Que ce soit Seno Sister ou je sais pas quoi. Seno Sister, elles avaient fait un truc, moi, qui m'avait fait marrer il y a quelques mois, où t'avais Mao qui avait pris un billet, je sais plus, un billet de 10 000, je crois, et qui avait mis un tweet du genre, ah là là, choper l'argent des otaku. Coup, ça me fait rire, un truc comme ça, et le tweet avait buzzé en bien, en fait, tu vois, genre, ah putain, elle est drôle, tu vois, genre autodérision, mais il y a une grosse part de vérité, finalement, c'est ce côté consumériste, entre guillemets, quoi, vendre son truc à tout prix. Alors parfois c'est bien fait, dans le cas de Seno Sister c'est rigolo et tout, et parfois on peut dévier sur Ekebi finalement, et les fans qui achètent des milliers et des milliers de CD, quoi.
La question peut-être qu'on peut se poser, alors moi j'ai un avis, je pense que oui, c'est est-ce que ça a une influence du coup sur les ventes derrière quand ils mettent des défis comme ça, est-ce que ça va pas justement inciter les fans peut-être à un peu plus lâcher quand ils proposent ce genre de défi, c'est certainement la raison pour laquelle justement ils lancent ces défis-là. C'est quand ils disent, je sais pas, on prend l'exemple Bateau, quand ils annoncent vraiment un nombre de CD à vendre pour le passage en major, par exemple. S'ils avaient peut-être un doute que le seuil de vente soit atteint, bah là, tous les fans d'eux-mêmes, pareil, vont avoir ce réflexe naturel de se dire, ah ouais, moi j'ai envie qu'ils passent major, mais on sait jamais. Donc ben pour le coup, je vais peut-être en prendre 4, 5 au lieu de 1, ou 10, ou 100, enfin ça dépend des moyens de chacun et du degré de fanitude.
Ouais, clairement, ouais. C'est sûr que ça joue. Ouais.
Dès qu'il y a un groupe qui prend une sortie d'un event, qu'ils annoncent une sortie et qu'ils annoncent des release events, en général, en fonction du release event, ben les fans se lâchent. Il faut voir les résultats du dernier single de Demba, c'est parce qu'il y avait des singles où il fallait commander, enfin, il fallait avoir quatre singles pour avoir un ticket de, pas un check, mais une photo. Forcément, quand j'avais vu des trucs sur Twitter, avec deux liens Twitter de deux personnes différentes, il y en avait quasiment pour 100 000 yens.
Ça, c'est pour des bonus, c'est pas vraiment lié à des défis.
Bah oui et non, parce que justement, le défi, c'est le Top Oricon aussi.
C'est ça, en fait, le défi est permanent, quoi, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Après, il y a même des groupes, pareil, encore une fois, je parle de ma crèmerie, mais genre Especia, et c'est des potes, hein, c'est vraiment des gens très proches de moi qui sont au Japon, qui font des trucs que moi je ferais pas, même si j'habitais au Japon, tu sais, mais genre, ouais, c'est la semaine de la sortie, il n'y a aucun event, il n'y a rien de particulier, les mecs vont au Tower Records, ils achètent 6 albums, quoi. Il n'y a aucune raison, tu sais, c'est pas pour d'autres personnes, c'est vraiment juste pour cette idée de soutien et de faire monter le groupe le plus haut.
Il y a deux écoles qui s'affrontent, il y a ceux qui restent à la maison, qui vont faire des articles et des blogs et des choses comme ça pour promouvoir le groupe. Et il y a le fan du terrain qui va acheter des sacs complets de disques, bon après va les acheter justement pour que les ventes, vu comme il y a des bonnes ventes, bah du coup le groupe continue, enfin en l'occurrence ça c'est une soliste. En même temps il va essayer, bah voilà, tiens j'ai un CD, je te l'offre. C'est pas rare au Japon quand tu vas à des events d'un groupe que t'as un mec qui arrive et qui ouvre un sac avec 3 tonnes de disques. Et il dit, bah tiens, je suis allé à un event de je sais pas quel groupe, et tiens, il te donne le disque, écoute-le, machin. Et c'est aussi une manière de faire de la pub
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est qui vient pas de particulièrement de ce milieu-là. C'est la première fois que je vois ça. En fait, j'ai été super surpris de voir des gens qui m'offraient des CD hyper amicalement. Et tu vas à n'importe quel concert, tu te retrouves avec 3 ou 4 CD. T'as rien demandé, t'as rien acheté. C'est assez particulier. Enfin, c'est en bien hein, d'une certaine manière. Les mecs sont cool, quoi. Mais c'est assez dingue. Ouais.
Même moi, je l'ai déjà fait. Enfin, je veux dire, c'était j'étais un événement des Nedico. J'avais acheté 2-3 singles parce que je voulais faire. Faire des handshakes, et bah du coup bah les singles je les ai offerts à des amis après parce que je suis allé dîner avec quoi.
Moi c'est juste un autre exemple de défi que j'avais eu l'occasion de voir, c'était pour la création d'une unité justement du Alice Project, Idol Yokai Kawayushi. Les différents membres des différents groupes du Alice Project avaient dû s'affronter sur pas mal d'épreuves, de défis, et justement qui faisaient intervenir aussi les fans. Et en fait, progressivement, donc il y a eu des éliminations. Il y a eu le deuxième défi. Il fallait que les fans offrent des bouchons en plastique de bouteilles à leurs membres préférés. Ensuite, les sacs étaient pesés. C'était pour décider d'un ordre de passage. Ensuite, pour la deuxième partie de cette épreuve, justement, où elle devait souffler sur un bouchon et l'envoyer le plus loin possible, en étant à même le sol, pas évident. La troisième partie, c'était plus un test de popularité des membres restantes. Les fans votaient, en fait, pendant une semaine. Il y a eu tout un tas de trucs comme ça, et en fait, Idol Yokai Kawayushi est le seul groupe, enfin la seule unité du Alice Project qui a été major. On peut se dire que là encore, c'était des défis par rapport aux membres pour qu'elles puissent être dans un groupe major. C'était assez intéressant.
Il y a aussi le concept du backstage. Hein. On vient, on consomme et on donne des points à une membre. Ou ne serait-ce que Cheers ou... Si tous les mois, là, avec la collaboration avec TGU, où on se retrouve avec les idoles qui ont le plus de votes pour tel truc, viennent à Japan Expo ou ont une interview. C'est assez courant pour décider de certains trucs.
Je sais pas, genre Anthony, on l'entend plus. C'est...
Non, comme je disais en intro, j'ai pas vraiment de réponse sur l'origine du mouvement, de cet effet de mode. J'ai pas trop d'analyse à faire là-dessus, à part juste contempler le phénomène et le commenter.
Personne sait pour l'origine, je pense.
Oui, c'est vrai que ça, de toute façon, ça peut être très dur à remonter.
Si quelqu'un a la réponse, qu'il nous l'envoie en commentaire ou quelque part.
Oui, exactement, on peut faire participer les gens, ils peuvent laisser des commentaires ou quoi que ce soit, en nous donnant des pistes ou leur analyse. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Bon, très bien, si on a terminé avec le... Alors du coup, petit débat, on va pouvoir passer à la petite présentation de la découverte d'Ashki, encore une fois. Hein, décidément, on va beaucoup l'entendre aujourd'hui. Donc tout de suite, après le petit jingle... Ashki, on t'écoute.
Donc ma découverte que je voudrais vous conseiller cette semaine, c'est un groupe justement que j'ai découvert il y a pas longtemps. Mon dernier voyage au Japon, donc il s'agit de Principal Exclamation, donc, ce qui est un point d'exclamation à la fin. Voilà, c'est un petit groupe de Niigata. Ils ont sorti un album pour l'instant, leur premier single vient d'être annoncé. Le titre n'a pas encore été annoncé. C'est frais, c'est de l'idol, quoi. Puis les chansons sont taillées pour le live. C'est-à-dire que vraiment, il y a des temps morts ou des choses comme ça, bah, qui sont faits pour placer du Wotage ou des cool ou des trucs comme ça. Et puis, comme c'est Niigata, bah, déjà sur l'album, on voit bien qu'il y a marqué dans les remerciements, bah, il y a Negiko et Ryutis. Et on va dire que sur certaines chansons, ça s'entend un peu, surtout Negiko. D'autant plus que, enfin, j'ai un peu d'attachement avec ce groupe parce qu'en fait, c'est une amie qui a fait l'illustration sur le CD, fait l'illustration pour les goods aussi. Le groupe est sympa à découvrir, quoi. Voilà. Donc, je sais pas, j'avais posté le lien vers les extraits de l'album et sur la chaîne officielle. Donc, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissiez déjà le groupe? Peut-être Nobe Sensei devait peut-être déjà le connaître.
J'en avais rapidement entendu parler, mais je n'avais pas encore eu le temps de vraiment découvrir. Je viens de jeter vite fait justement un coup d'œil à l'extrait vidéo, enfin le trailer que tu avais linké, et je dois avouer que j'aime bien, c'est sympa. Bon après, c'est pas non plus forcément un groupe qui deviendra un de mes groupes préférés. Il y a déjà trop de monde, donc j'essaierai quand même de surveiller un peu ce qu'elles font.
Je connaissais pas du tout, j'ai regardé la petite vidéo qui présente leur album, j'ai pas adhéré.
Comme je disais, de toute façon, les chansons, elles sont taillées pour les lives, donc c'est pas du...
Oui, c'est vrai, ouais. De toute façon, quand t'es pas dans l'ambiance, tu ressens pas la chanson de la même façon, donc c'est sûr. Mais après, si j'ai l'occasion de découvrir, je le ferai avec plaisir, mais là, non.
Bah, moi, c'est un peu le même avis, en fait, hein. Je connaissais pas avant, j'ai écouté, évidemment, le lien à YouTube qui avait été donné par Ashki, je n'ai pas été plus emballé que ça. Il faudrait voir éventuellement en live ce que ça donne, parce que là, sur des extraits d'albums, on va dire enregistrés en studio, ça m'a pas hyper emballé. Donc, à voir.
Moi, c'est un groupe que je connaissais, puisque Niigata est la ville jumelle de Nantes, donc je me dois de connaître ce qui se fait quand même à Niigata.
Parce que ça commence par un N.
Non, Niigata, c'est un cas subtil, si tu veux tout savoir, petit aparté. Non, c'est parce qu'à Nantes, on a la Loire, donc on a beaucoup de ponts. Enfin, ceci dit, ça c'est un point commun des grandes villes françaises et même européennes en général. Bon, bref. Et à Niigata, c'est pareil, en fait, il y a le plus grand fleuve japonais. Alors par contre, je peux pas te dire le nom. Il y a plein de ponts, etc. Ils nous ont pris notre système de bus. On a un système de bus un peu particulier et tout. Enfin, il y a pas mal d'échanges culturels. Donc les villes se ressemblent de plus en plus. Il y a les mêmes concerts classiques que nous. La folle journée de Nantes et la folle journée de Niigata. Enfin bref, il y a plein d'échanges. Pour revenir au niveau des idols, et c'est très bien que tu présentes ce groupe en fait, parce que Niigata, faut savoir qu'il y avait un gros creux depuis toujours, entre guillemets, ça a toujours cette petite image de ville de campagne, et il y avait un gros creux au niveau des idols. Surtout que Negiko maintenant part entre guillemets, vu que elles sont quand même à un autre niveau, on peut plus vraiment les considérer comme des idoles locales, elles font quand même des gros concerts, etc. Il restait en très gros que Lutist, en très gros. Après, t'as plein de petits groupes qui bataillent pour se choper les miettes, on va dire. T'as Angel Generation notamment, t'as un autre groupe de Nagaoka dont j'ai oublié le nom, enfin t'as 3-4 groupes comme ça.
Chess, je crois aussi.
Ah, je connais pas comme ça, mais c'est possible, hein. Il y en a vraiment, il y a pas mal de petits groupes, il y a même le After School Café, qui est un made café de Niigata, qui a fait son propre groupe, là, qui commence à jouer, et Principal, si je raconte pas de conneries, c'est produit par un type dont j'ai oublié le nom, qui avait déjà fait un groupe qui s'appelait Millefeuille Tea. Il y a quelques temps, qui avait moins bien marché. Il avait tenté de faire une sorte de buzz, il faisait des petites vidéos et tout, mais ça avait pas trop accroché. Et là, déjà, c'est plus lui qui fait la musique, ça s'entend, parce que le mec était pas hyper bon. C'est lui qui faisait les zik et tout, mais c'était pas incroyable. Et là, c'est vrai que le teaser, il est très propre, quoi. C'est vraiment... les musiques sont... Moi, je les trouve cool. C'est dynamique, c'est pas trop gnangnan. Non, moi, j'accroche bien. Je suis content. Et ceci dit, le fait que NGT48, d'ailleurs, s'installe à Niigata, ça montre bien ça, quoi, qu'il y avait ce creux et qu'il y a un gros marché à conquérir encore à Niigata.
Franck, on t'a entendu je sais.
Non.
Et donc, t'as pas d'avis?
Voilà, exactement.
T'as écouté au moins l'extrait, même pas?
J'ai écouté, mais...
Voilà, bah écoutez, l'intérêt de cette nouvelle rubrique, au-delà de nos avis personnels à chacun de l'équipe, c'est de vous, public qui nous écoutez, de nous faire des retours sur ce que vous en pensez de ce groupe-là et éventuellement nous proposer d'autres découvertes pour des prochaines émissions dont on pourra parler. En même temps, vu que dans des prochaines émissions on invitera des gens, ces gens pourront directement nous parler de peut-être leur découverte du moment s'ils en ont une ou participer au débat autour des découvertes avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous avez pensé, vous, du groupe. Et donc, si vous le voulez bien, on va pouvoir passer au J-Top tout de suite. Alors Franck, comme on t'a pas beaucoup entendu sur principal, on va t'écouter pour le J-Top.
Le J-Top de 338 version INN, donc en 31e position Angelou Mou avec Nana Kolobiyaoki, en 29e Kikawayu avec Anna, en 19e position Gatchalink Spin avec Nextech, en 18e Calafina avec Ring Your Bell, en 17e, les Smile Age avec A. Susukino. En 14e position, pour Eric, Cheeky Parade, Candy Pop, Galaxy Bomb. En 7e position, Morning Musume, One Five avec Yugurewa, Ameagali. En 5e position, Asonatsukon avec Parade, dont il reste une seule semaine. 4e position, les Cute avec Gamusha Life. Et les meilleurs en premier, Scandale avec Stamp. Au niveau des nouveautés, on a donc Okago Princess avec Seifuku Cinderella et Morning Musume One Five avec Imasugu Tobikomu Yuki. Voilà, donc maintenant les soutiens. Alors pour moi, je vais retourner dans les classiques. Ça sera les Up Up Girl Kakokali avec Zanyoku Pump Up qui sont 43e cette semaine.
Il échappe encore une fois à la 42e place.
À un point.
Ceci dit, à noter que la 42e place est prise par NMB48, qui est le soutien secondaire de la coalition SES Idol.
Ouais.
Troisième fois qu'elles sont 42e.
Comme d'habitude, mon soutien indéfectible à Cheeky Parade, qui a fait 14e cette semaine, donc premier passage dans le top 20. On est très contents et on va continuer de soutenir ce clip qui est un petit ovni quand même, hein, qui fait quasiment 8 minutes, et le morceau aussi, qui est excellent. Toujours cheeky fan.
Moi, mon soutien, j'en avais déjà parlé par le passé, c'est Failure Archive Department Fit Linku avec Garnet, qui est actuellement 223e, qui monte progressivement, donc croise les doigts, peut-être qu'ils vont revenir dans le top 200.
Allez, je vais changer un petit peu, je vais proposer un clip qui est bien classé pour une fois. Donc malheureusement pas des Yume Ado. Donc ce sera Anna de Kikawayu qui est 29e, comme l'a dit Frank tout précédemment. Donc si on pouvait la faire rentrer dans le top 20, ce serait sympa avant la fin de l'année.
Moi c'est un clip qui est classé 47e, c'est sans surprise WWD des Dempagumi.
Moi je choisis un clip dont j'avais déjà parlé, il me semble, c'est quand il était arrivé en tant que nouveauté. Mais là ça va pas du tout, donc je suis obligé d'en reparler. Alors, il avait fait une entrée, on va dire, correcte lors de son arrivée dans le J-Top. Il était 171e, c'est quand même pas extraordinaire. Mais depuis, il a quand même relativement sombré. Il est tombé jusqu'à la 774e place. Et actuellement, il est à la 401e place. Donc là, c'est vraiment pas terrible, hein, avec seulement 44 points. Donc c'est le clip, l'unique clip de Le Lien disponible sur No Life, donc Kizuna Zaka. Donc je vous invite vraiment à, si vous avez quelques points, un petit jipote, n'importe quoi, balancer un petit caillou, ça leur fera plaisir et ça permettra peut-être de les faire un peu remonter et peut-être, qui sait, un peu plus d'exposition pour que les gens les voient et votent pour elles, parce que bon, visiblement, ils ont dû les louper, hein, parce que même la première semaine, j'ai dit, ouais, l'entrée était quand même assez modeste.
Je verrai peut-être pour les KSC début novembre, quand on aura eu les bonus du jeu top qui seront tombés, parce que j'ai un saphir qui arrive là.
J'ai cru que t'allais dire je vais attendre janvier prochain. je pense que s'ils annoncent le dernier J-Top, tout le monde va tout péter. On va balancer des saphirs, des diamants à tour de bras. Ça, il va y avoir 150 J-Pot. Enfin, ça va être n'importe quoi.
Ouais, le dernier, il va se poser les poids, je pense.
Enfin, en espérant qu'il n'arrive pas, bien sûr. Bon, ben voilà, on arrive au bout de cette émission. On va pouvoir passer aux recommandations. Alors, pour les recommandations, bah, je vais laisser la parole tout simplement à Ashki.
Ma recommandation de la semaine, c'est pour pas changer un animé. Donc, One Punch Man, c'est l'histoire du gars le plus fort du monde, après qu'il se soit entraîné pendant 3 ans en faisant sans pompe, sans abdos et en courant 10 km tous les jours, à tel point qu'il en a perdu ses cheveux. Et il est devenu si fort qu'il terrasse ses ennemis d'un seul coup de poing. Donc du coup, bah, en fait, il s'emmerde un peu. Et donc voilà, c'est son histoire. À la base, c'était un comics amateur, enfin un manga amateur en ligne, dessiné par One, qui a été repris par un mangaka connu. Et la hype fait que finalement, c'est arrivé en animé. C'est très, les animations sont assez jolies, les combats sont bien rendus. Même si bon, on sait qu'au final, l'ennemi qui est énorme, surpuissant, va se prendre juste un coup de poing et va finir en shish kebab. Voilà. Mais c'est très drôle.
Pas encore vu, mais des échos que j'ai eu, apparemment ils disaient que c'était le blockbuster qui arrivait, quoi. Enfin, certains échos, quoi.
C'est l'anime d'automne, quoi.
Ok, bah je regarderai quand j'aurai le temps. J'ai un peu de retard sur pas mal d'animés là en ce moment, j'ai du mal. Bah, alors Anthony, pour changer aussi, nous parle de jeux vidéo.
Oui, d'un petit jeu qui est sorti d'Early Access le 15 octobre dernier. Ça faisait 2 ans que la première alpha avait été publiée, donc c'est Broforce. Un petit jeu en 2D où on déplace un héros qui a une grosse arme dans les mains. Voilà, c'est un petit jeu parodique, caricatural des héros des films d'action des années 80-90 et même un peu 2000 américains, des films américains. Et c'est un jeu qui explose tout dans tous les sens. Voilà, faut tuer des ennemis, des aliens, le diable en personne à la fin. C'est vraiment un petit jeu fun, façon pixel art. Et les décors sont quasiment entièrement destructibles. C'est vraiment fun à jouer. C'est un peu dur vers la fin quand même. Mais bon, je l'ai fini hier et assez jouissif de le terminer, hein, parce que c'est vraiment pas facile vers la fin. Donc voilà, un petit jeu à moins de 15€ qui est sympa, qui est dispo sur Steam ou et ailleurs.
Tu peux jouer à plusieurs en ligne.
Tu peux jouer en local ou en multi, oui, jusqu'à 4. Hein. Et c'est le bordel. Je l'ai fait à 2, c'est le bordel, parce que tu t'entretues très très vite.
Déjà à 2, c'est le bordel, et à 4, alors c'est quoi?
c'est impossible.
Il y a du Friendly Fire, non?
Non, c'est pas du Friendly Fire, mais si par exemple tu tires sur un bidon explosif et que toi ton pote est à côté, ben il va exploser avec. Mais sinon, non, y a pas de Friendly Fire, ou même ses propres grenades ne te tuent pas. Mais bon, des fois le multi en ligne est pas super bien stable. Mais en plus, c'est le bordel. Mais bon, en solo, je l'ai fait en solo, c'est fun.
Alors, Laurent qui nous parle de bande dessinée, bah, moi ça m'intéresse parce que j'hésitais justement à l'acheter.
Alors bah oui, effectivement, donc le tout nouvel album d'Astérix sorti donc il y a quelques jours, le Papyrus de César. Donc il est vraiment sympathique, il est vraiment très agréable à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon ensuite comme d'habitude, bah, forcément, il y a du Romain qui se fait tabasser. Il y a toujours quelques sangliers qui se baladent. Mais là, au niveau de la thématique, c'est quelque sorte une critique, on va dire, un petit peu de l'édition et de la censure. Donc voilà, c'est par les mêmes auteurs que Astérix chez les Pictes.
Ah, ce que j'avais demandé. Ouais.
C'est Jean-Yves Ferry et Didier Conrad.
Ça peut pas être pire que le 33e.
Ah mais non, tu peux pas faire pire.
33ème, c'était quoi, la rentrée ou c'était...
Non, c'est le truc avec les fusées Disney, les extraterrestres et tout. Et celui-là, il a oublié, celui-là. Il n'a pas existé.
Le dernier du Derzo, en fait.
Celui-là, je l'avais acheté Day One. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. J'aurais dû me casser la jambe.
J'ai fait pareil, quoi. J'ai regretté mon achat.
Eric, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer, nous conseiller?
Oui, alors c'est un film, là, qui vient d'arriver dans les salles. C'est Aladdin avec Kev Adams.
Non, sérieux?
Sérieux?
Non. Mais non, bande d'huîtres. Non, vous êtes fous.
Tu m'as fait peur.
Chacun ses goûts, hein.
Sans blaguer. Et ben moi c'est Jurassic World.
J'ai vu aussi.
Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps, ouais. J'ai bien aimé.
J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce film et je voulais me faire mon propre avis. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ce qu'on lui reproche, c'est d'être, enfin, ce que j'ai vu hein, dans les critiques papier, c'est d'être un peu, d'avoir abandonné la poésie, etc. Mais justement, moi, je trouve que ça sert vraiment bien le film. En tant qu'adulte, je trouve que ça sert bien le film. Je trouve que c'est le plus réaliste de tous, en fait, quoi. C'est vraiment celui dans lequel, moi, je crois le plus, je m'identifie le plus, d'avoir des salauds hyper avides de pognon, tu vois, sacrifier des vies, etc. Moi, j'y crois. Tu vois, quand le mec, il dit, ouais, on peut pas faire ça parce qu'on peut pas tuer le dinosaure, ça nous coûterait des millions de dollars et tout. Alors, il sacrifie des vies humaines, moi, j'y crois. Et je trouve que ça donne une patte tellement réaliste que finalement, ouais, c'est largement le plus réaliste de la série, entre guillemets.
Alors, tu l'as vu en 3D ou pas?
Non, je l'ai vu chez moi, sur moi.
Ouais, moi aussi, je l'ai vu chez moi, mais en 3D. Et la 3D, je la trouve pas très réussie, en fait. J'ai pas trop vu de profondeur. Donc, je sais pas si ça vient de chez moi ou si au cinéma, c'était pareil.
Ah ouais, t'as une télé 3D?
Ouais, ouais. Tout ça pour dire que la 3D, enfin, t'as des scènes où tu vois le monstre qui te saute de l'écran et tout, ça m'a pas fait ouf.
Alors, Franck, est-ce que t'as une recommandation, histoire de vite finir? Parce que là, je pense qu'on a déjà passé un bon bout de temps aujourd'hui.
Alors, j'ai bien quelques recommandations d'anime, mais le problème, c'est qu'aucun n'est en diffusion légale.
Ah.
Tout en moins de 18 ans, c'est ça.
Et donc t'as rien d'autre? T'as pas un jeu, un bouquin, une BD
En ce moment, non, rien du tout.
Bon bah tant pis. Hein. Pour ma part, alors je vais faire une recommandation. Alors une recommandation un peu, on va dire. Alors certains vont me dire, oh là là, mais t'es complètement en retard, t'es has-been et tout. Alors il se trouve que c'est lié à mon travail. Hein, donc si ça intéresse certains, vous irez chercher. Alors, il se trouve que pour mes cours, ces derniers jours, j'ai travaillé, joué, interprété ça comme vous voulez, pas mal à Minecraft, auquel je n'avais jamais vraiment touché auparavant. Et pourquoi donc je me suis intéressé à Minecraft, c'est parce que ça a commencé un petit peu, mais là c'est en train d'émerger un peu en France. Parce que ça existe déjà pas mal au niveau des États-Unis, du Canada et des pays nordiques. C'est justement l'utilisation de Minecraft pour la classe à objectif pédagogique, bien entendu. Hein, et donc, c'est notamment parce que j'ai découvert via les travaux d'un autre prof en Bretagne qui l'utilise déjà, lui, dans sa classe en collège. Donc, Minecraft Edu. C'est une version modée de Minecraft qui a été faite spécialement pour l'éducation et qui est vraiment pas mal puisque ça permet de mettre des restrictions, rajouter des restrictions au jeu justement pour mieux contrôler les faits et gestes des élèves, des étudiants dans l'utilisation du jeu. Puisque évidemment l'objectif là c'est pas simplement de jouer à Minecraft, c'est de jouer à Minecraft mais avec des objectifs pédagogiques derrière et donc d'acquérir certaines connaissances. Et en fait je me suis rendu compte là justement en jouant pour la première fois ces derniers jours à Minecraft que je comprenais pourquoi tant de gens s'intéressent au jeu, parce qu'en fait c'est vraiment pas mal fichu. Il y a des choses qui sont vraiment très bien pensées de façon réaliste, même si c'est un peu simplifié. Et c'est en ça où c'est vraiment intéressant pour le côté pédagogique derrière, pour travailler avec des élèves. Et on peut leur apprendre pas mal de notions sur de l'architecture, des matériaux, etc. à travers le jeu. Et pour ça, c'est vraiment intéressant. Et après, bien entendu, je me suis un peu laissé emporter à 2-3 moments où tu te dis « Ah bah je vais essayer un truc comme ça ». Et puis au final, 3 heures après, on se dit « Ah merde, j'étais parti pour faire un truc 10 minutes ». Et voilà quoi. On se prend au jeu. C'est vraiment fun de se laisser aller dans son imagination et de tenter de faire des trucs. Voilà, donc si vous avez pas encore testé Minecraft, je vous invite vraiment à tenter le coup. C'est un bac à sable, c'est sûr, il n'y a pas de scénario, mais on se prend vite au jeu, c'est assez fun. Voilà.
Alors, est-ce que je pourrais juste ajouter une recommandation de dernière minute?
Alors, qu'est-ce que c'est? Vas-y.
Alors, en fait, le 14 octobre est ressorti au cinéma, mais visiblement uniquement au UGC Ciné-Cité des Halles, Blade Runner. C'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu en salle de cinéma. Donc, du coup, si vous êtes sur Paris et que vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller le voir.
Bon, voilà, je pense qu'on a fait une belle émission aujourd'hui, relativement longue, plus longue que d'habitude. Voilà, donc ça va être dur de faire aussi bien peut-être dans 15 jours. En tout cas, ben on vous dit à dans 15 jours. Voilà, bye bye.
À plus, bye. À la prochaine.
Salut.
Ta-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-